RFI.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Grand reportage.
Depuis le début du confinement, la justice vit au ralenti. Seul le traitement des urgences a été maintenu. Ce 11 mai, l'appareil judiciaire entame ainsi son déconfinement. Chaque jour, les dossiers s'entassent et la justice est aujourd'hui confrontée à un engorgement sans précédent. Pourra-t-elle faire face sans rogner sur ses principes et les droits des justiciables? Le défi de la justice post-confinement, un grand reportage de Laura Martel.
Très bien, l'audience va être suspendue. Nous allons rendre notre délibéré sur ce dossier et sur les autres en cours d'audience.
L'ensemble des juridictions est dans un mode ralenti. C'est tout à fait inédit dans l'histoire de la justice.
Denis Salas, magistrat et président de l'Association pour l'histoire de la justice.
On a vu des situations de ce type pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais une interruption si brutale et sur l'ensemble du territoire, moi je vois pas de précédent dans l'histoire récente de la justice.
Le 16 mars, la justice ne s'est pas complètement arrêtée. Des plans de continuation d'activité ont été mis en place pour parer aux urgences. Plus de 15% des personnels judiciaires et de nombreux avocats ont continué à se rendre au tribunal malgré les risques. Mais confinement oblige, l'activité a drastiquement chuté dans les 165 juridictions françaises. À l'image de la première juridiction d'appel du pays, la Cour d'appel de Paris, qui a réduit la sienne de 90%. Deux mois durant, le retard s'est accumulé chaque jour. D'autant que les magistrats qui pouvaient actualiser des dossiers, rendre des décisions à distance, ont été handicapés par des systèmes informatiques obsolètes ou peu performants et que leur travail a échoué dans une sorte de cul-de-sac judiciaire, explique Hervé Bonglet, secrétaire général de l'UNSA Greffier.
Il y a une impasse, puisque les décisions ont été prises sur dossier par les magistrats, sauf que, comme nos collègues greffiers ne sont pas équipés par de l'informatique, eh bien, évidemment, ça n'a pas été possible de faire tout ce qui concerne l'enregistrement, plus les notifications de décision.
Mais les retards, rappelle Hervé Bonglet, ne sont pas dus au seul confinement.
Entre décembre et maintenant, on a eu la grève des transports, 3 mois de grève des avocats et 2 mois de confinement. Donc, depuis mi-décembre, la justice est pas à l'arrêt, mais elle est en grande difficulté. Et là, on est un engorgement qui va être assez catastrophique.
Impossible de mesurer l'ampleur de cet engorgement à l'échelle nationale. Il est inégal selon la matière judiciaire traitée et propre à chaque juridiction. Mais à l'échelle de la sienne, Éric Morel, procureur de la République de Nîmes, décrit un encombrement colossal.
Ça va représenter de très nombreux mois de retard, c'est-à-dire que d'ores et déjà, nous allons attaquer les renvois sur le deuxième trimestre 2021. Et c'est dire que donc des affaires qui sortent maintenant risquent fort d'être jugées en 2022. Donc nous allons devoir mettre en place des stratégies, mais pour autant, il nous faudra des années pour pouvoir purger les stocks.
Le problème, pointe magistrats, greffiers et avocats, c'est surtout que le coup d'arrêt du confinement est venu s'ajouter au retard chronique d'une justice à bout de force. Une justice dont le défi, souligne la présidente du syndicat de la magistrature, est désormais non seulement d'arriver à traiter ces dossiers en souffrance, mais d'y parvenir sans renoncer à l'essentiel et malgré le handicap de l'épidémie. Katia Dubreuil.
Ce qu'il faut bien dire, et c'est quand même le problème crucial, qu'on part d'une situation qui était déjà extrêmement obérée. Cette crise sanitaire ne fait que mettre en lumière une crise qui existait déjà dans la justice en raison de l'indigence des moyens en personnel et des moyens matériels qui pouvaient être ceux de la justice. Donc on vient sur une situation qui est déjà très difficile avec des magistrats, des défenseurs, fonctionnaires de grève déjà épuisés par des rythmes staccanovistes. Ce qui est sûr, c'est que l'état des stocks actuellement est inquiétant et que ça va être quelque chose de très difficile pour la justice de pouvoir à la fois ne pas être dans le déni de justice, c'est-à-dire répondre aux demandes légitimes des justiciables qui doivent faire valoir leurs droits, tout en garantissant toujours un niveau de qualité de justice qui permette de respecter un certain nombre de principes de procédure, et ça dans des délais raisonnables.
Le tribunal.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
Ce 11 mai, les tribunaux rouvrent, certes, mais jusqu'au 2 juin, il sera surtout question pour les juridictions de faire un état des lieux, revoir l'organisation et les calendriers. Les audiences ne reprendront que progressivement et dans un volume limité par la nécessité de respecter les mesures sanitaires dans des locaux et des circonstances peu propices à la distanciation sociale. L'accès du public sera d'ailleurs fortement régulé. Une entorse à l'importante règle de publicité des débats qui semble difficilement évitable, au moins tant que perdure l'état d'urgence d'urgence sanitaire. Chez les professionnels de la justice, en tout cas, les attentes en matière de sécurité sanitaire sont d'autant plus grandes que nombre d'entre eux disent avoir travaillé sans protection durant les premières semaines du confinement. Leur santé, comme celle des justiciables, est évidemment ma préoccupation première, insiste Jean-Michel Ayat. Anticipant sur la reprise, le premier président de la Cour d'appel de Paris a fait auditer ces dispositifs par l'Agence régionale de santé début avril.
Les magistrats et les fonctionnaires qui vont à l'audience sont actuellement tous dotés de masques. Ils les mettent ou ils ne les mettent pas, c'est leur responsabilité, mais ils sont à leur disposition. Mon devoir, c'est également de m'assurer que lorsque des magistrats ou des fonctionnaires partagent un même bureau, la distanciation d'un mètre est assurée. Si ce n'est pas le cas, on peut envisager la mise en place de parois en plexiglas. Il faut également, dans l'ensemble des axes de circulation, prévoir là où il y a des zones d'attente de procéder à un marquage au sol pour garantir l'espacement entre une personne et la suivante. En salle d'audience, prévoir également sur les bancs une distanciation balisée par un marquage, la même chose dans les boxes de détenus. Les prestations de nettoyage ont été considérablement revues à la hausse, avec notamment nettoyage journalier des micros et de toutes les tables de travail pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et précisément, la procédure sans audience, la remise du dossier par les avocats se fait à un endroit unique et on les stocke pendant 3 jours, puisqu'on considère quand même qu'au bout de 3 jours, le risque de contamination par la manipulation du papier est vraiment nul.
Le plus compliqué, pointe Jean-Michel Ayat, sera de reprendre les procès d'assises, vu les difficultés que pose la convocation d'un jury populaire. En matière de terrorisme, c'est moins problématique, puisque la cour d'assises est alors uniquement composée de magistrats. Ainsi, le procès des attentats de janvier 2015, qui devait débuter le 4 mai pour 2 mois, a déjà été reprogrammé à septembre. De quoi dégager en amont du temps d'audience et de travail précieux, d'autant que les vacances judiciaires seront légèrement écourtées. Mais tous les trésors de réorganisation ne suffiront pas pour traiter tous les dossiers en attente et à venir. Il faut donc faire du tri en fonction de la nature des affaires. Les priorités établies durant le confinement, les dossiers qui touchent à la liberté et à la protection des personnes, en particulier les violences intrafamiliales, vont perdurer. La hiérarchisation peut aussi se faire par le choix des poursuites, explique le procureur de Nîmes, Éric Morel.
La question que nous allons nous poser dossier par dossier, c'est est-ce que ce dossier a encore une utilité pour la société ? Est-ce qu'il a du sens pour l'auteur et pour la victime de l'infraction ? Et pour certaines infractions où il n'y a pas de victime, où le trouble à la société est extrêmement modeste. Effectivement, nous pourrons faire le choix de classer des dossiers pour privilégier ceux qui méritent absolument d'être jugés. Je vous donne un exemple très simple. Entre un vol à l'étalage et des violences conjugales, le choix sera vite fait. Il y aura des choix sélectifs à faire. C'est ce que dans le droit français, on appelle l'opportunité des poursuites. Toutes les infractions ne sont pas systématiquement poursuivies devant un tribunal. Aujourd'hui, entre 70 et 80% des affaires n'arrivent pas sur le bureau d'un juge. Ce sont les procureurs qui les traitent dans le cadre de ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, que sont la médiation pénale, les rappels à la loi, les classements sous condition. Donc ces choix, nous les faisons tout le temps. Ils vont simplement être amplifiés.
Si des choix s'imposent, reconnaît-on volontiers de l'autre côté de la barre, il faut être vigilant à ne pas restreindre l'accès à la justice, prévient l'avocate Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux.
Du point de vue de l'avocat et donc du justiciable, il n'y a pas de petits dossiers ou de grands dossiers. Chaque dossier est important. Quand vous décidez de saisir la justice, c'est un dossier qui vous mine. Donc, comment va se faire ce tri ? Il y a un risque que l'accès à la justice soit de plus en plus difficile. Et quand vous n'avez pas accès à la justice, le risque, c'est que progressivement se mettent en place des rapports de force, des solutions en marge de la justice. La justice, je le rappelle, c'est un pilier dans un État démocratique. Ce n'est pas un service public comme les autres. Donc, c'est un service qui devrait vraiment se doter des moyens pour que chaque justice et la possibilité de saisir, quand il le souhaite, la justice.
Autres outils pour limiter les risques de contagion et qui gagnent du temps, les procédures simplifiées préconisées dans les ordonnances prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, comme l'usage accru de la visio-audience ou le jugement sans audience. Jean-Michel Ayat.
La procédure sans audience, c'est une procédure où on propose aux avocats de juger leur affaire sans qu'elle puisse être plaidée. Mais les avocats transmettent leur dossier de plaidoirie et le tribunal ou la cour les juge. Ça ne peut pas être imposé. L'avocat a un délai de 15 jours pour s'y opposer et s'il s'y oppose, on ne peut pas passer outre. C'est un système qui ne peut se concevoir que dans la période que nous traversons, d'état d'urgence sanitaire, mais cela évite de renvoyer, je dirais, au calendrier grec des dossiers qui étaient prêts à être jugés. Et ça permet très concrètement de relancer la machine dans une période où c'est compliqué pour tout le monde. La plupart des tribunaux, dans le ressort de la Cour d'appel, lancent cette procédure parce qu'elle est l'outil le plus adapté, surtout après le 11 mai, dans un moment où les transports en commun sont rares, le risque de contamination est majeur, puisque la crainte est dans les esprits, c'est la deuxième vague.
Même si recourir à ces procédures est compréhensible dans le contexte actuel, concède encore Christiane Ferralschul, elles sont difficilement généralisables et malmènent certains fondamentaux du droit, alerte-t-elle.
Le recours à la visio, le dépôt des dossiers, nous ne sommes pas opposés en vrac à tout ça, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on banalise l'absence de plaidoirie. Il y a des contentieux où le contexte est quand même fondamental et le rôle de l'avocat est d'expliquer le contexte. Lorsqu'il y a une décision de déposer un dossier, on se prive de la possibilité d'apporter des explications au juge. L'oralité est importante, le contexte, l'unicité du procès. C'est important de voir comment réagit le justiciable à côté de son avocat. Alors, ce n'est pas tout le temps important, mais au pénal, c'est absolument fondamental. Vous ne pouvez pas vous contenter de déposer un dossier. Alors ensuite, la question est de dire est-ce que l'oralité peut se faire en visio ? Là encore, ça va dépendre des cas. Le contentieux des étrangers est un contentieux compliqué en visio. Lorsque vous êtes en matière pénale en visio, avoir le détenu à un endroit, son avocat à un autre, le juge à un troisième endroit, c'est compliqué. Et l'on sait que dans ces matières-là, un silence, une hésitation, ce sont des éléments qui participent de la recherche de vérité.
L'exception ne doit pas devenir la règle, acquiesce Jean-Michel Ayat.
Dans toute la mesure du possible, il va falloir très vite restaurer la plaidoirie. C'est évident que voir un avocat plaider sa cause, c'est essentiel en démocratie. C'est pourquoi la procédure sans audience, ce n'est pas la panacée. C'est une solution provisoire en période de crise. La visioconférence est utile également en période de crise, mais il est clair qu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, nous reviendrons bien évidemment aux règles de droit commun pour ne pas faire de l'exception la règle de l'avenir. C'est évident. Je peux vous dire que ça n'a rien d'exaltant, je dirais, de travailler en mode dégradé comme nous le faisons actuellement.
Le risque, pointe-t-il, est que l'état d'urgence sanitaire soit plusieurs fois renouvelé, prolongeant de facto le recours à ces procédures. D'autres redoutent que même hors état d'urgence, elle soit adoptée durablement comme une solution de facilité face à l'engorgement. Katia Dubreuil, du syndicat de la magistrature.
Ces simplifications procédurales qui perdureraient au-delà du moment où elles sont nécessaires et feraient que la justice se transformerait durablement dans un service public qui traite des flux en masse sans la qualité de la décision judiciaire, sans la collégialité, sans le débat contradictoire, sans l'humanité, avec la présence des personnes, etc. C'est l'énorme risque qu'on encourt à travers cette crise, parce qu'on sait que dans la loi qui a été adoptée le 23 mars 2019, la réforme de la justice, c'était déjà ce genre de simplification qui était à l'œuvre, qui avait été quand même endiguée pour un certain nombre, parce qu'il y avait une opposition ferme de tous les professionnels de justice, avocats, magistrats, fonctionnaires de greffe. Mais là, à la faveur de cette crise, on peut aller un peu plus loin et la chancellerie pourrait être largement tentée de faire perdurer ensuite ces dispositions de droit commun.
L'inquiétude principale que nous avons, c'est que les mesures exceptionnelles s'inscrivent dans la durée.
Christiane Ferralschul.
On l'a déjà vécu en 2015 avec toutes les mesures en lien avec le terrorisme qui devaient être exceptionnelles et puis maintenant elles sont pérennes, elles sont dans notre code de procédure pénale. Donc petit à petit, au nom de la sécurité, les libertés reculent, ça c'est un constat. Vous avez un certain nombre de citoyens qui vous diront que la sécurité est la première des libertés. Je ne partage pas ce point de vue. La sécurité ne doit pas toucher à des droits fondamentaux de l'individu.
Le sort d'une des dispositions les plus décriées de l'état d'urgence sanitaire, la prolongation automatique des détentions provisoires sans intervention du juge, semble en tout cas scellé. La ministre de la Justice a assuré le 6 mai qu'elle serait levée dès le déconfinement prononcé. Cette mesure, dénoncée comme une atteinte grave aux droits de milliers de détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, est d'autant moins passée inaperçue que parallèlement, quelques 12 000 condamnés en fin de peine ont bénéficié d'une libération anticipée pour diminuer le risque épidémique en prison. Ces libérations anticipées anticipés, ajoutés à la baisse de la délinquance, ont eu un effet drastique sur la surpopulation carcérale. C'est le point positif issu du confinement, soulignent unanimement mes interlocuteurs. Une dynamique à entretenir, estime le procureur Éric Morel.
Oui, quelque chose d'absolument extraordinaire. On vient de se rendre compte qu'en quelques semaines, l'effort conjugué de tous, les juges de l'application des peines, les procureurs, l'administration pénitentiaire, les conseillers d'insertion, a permis de diminuer la population pénale de 1500 personnes, si j'ai bien lu. C'est-à-dire que pour la première fois depuis que j'exerce ce métier, nous sommes descendus en dessous du 100% de taux d'occupation. Ça va nous interpeller. C'est-à-dire que cette crise sanitaire a mis un accent particulier sur la crise pénitentiaire et nécessairement, nous allons avoir une approche très différente de nos politiques d'incarcération et la relation à la peine de prison va être différente. Mais au-delà du risque sanitaire, on ne peut pas avoir vécu ce phénomène de diminution drastique des personnes en prison sans que c'est un effet sur notre réflexion.
Katia Dubreuil, elle, va plus loin.
Une opportunité qu'on n'a jamais connue de pouvoir régler cette situation de la surpopulation carcérale pour l'avenir. On voit qu'effectivement, il ne suffit pas grand-chose pour ramener la proportion de prisonniers à des niveaux acceptables par rapport aux capacités d'accueil des prisons. Hein. On sait par les statistiques depuis longtemps que si on retire 2 mois de prison à toutes les peines prononcées, les prisons ne sont pas surpeuplées. Donc c'est un peu ce qui se passe actuellement. Il suffisait d'une volonté politique, ça c'est ce qu'on dit. Et surtout, il faut maintenant une volonté politique. On n'a jamais été aussi près du niveau d'emprisonnement permettant l'encellulement individuel. On fait encore un petit effort, on y arrive. Et à partir de là, il faut mettre en place un principe de numerus clausus qui ne revient pas à dire qu'on ne peut pas mettre des gens en prison s'ils doivent y aller, mais simplement qu'à partir du moment où quelqu'un rentre en prison et qu'on voit que ça fait augmenter la population de l'établissement au-delà de ses capacités, il faut aller chercher dans ceux qui y sont déjà lequel est le plus proche de la sortie ou lequel a les meilleures perspectives en termes de réinsertion et autres, et prévoir dans la loi qu'une décision doit être prise pour sortir quelqu'un pour que le niveau d'occupation de la prison ne soit pas au-delà de ses capacités. Ce genre de système, c'est difficile à mettre en œuvre parce que d'habitude, on part de très loin. On est à plus de 10 ou 15 000 détenus de trop. Et là, on y est quasiment. Donc, ce serait une faute historique de ne pas profiter de ce moment pour mettre en place un tel système.
Déjà débordé, l'appareil judiciaire risque pourtant d'être particulièrement sollicité pour réparer les petites et grandes blessures du confinement et de la gestion de l'épidémie, avertit le président de l'Association pour l'histoire de la justice, le magistrat Denis Salas.
Aujourd'hui, cette société est malmenée par les conséquences de la pandémie. On pourrait évoquer les violences conjugales. Il y a beaucoup de dossiers en urgence qui sont arrivés sur les bureaux des juges. Les modes de travail qui sont mis en place actuellement, on pense à Amazon, qui sont également contestés. Donc vous avez des formes de distorsion du lien social qu'on va commencer à mesurer au fur et à mesure que le déconfinement va progresser. Et on va demander à la justice de réparer ces distorsions à travers les affaires qui vont lui être soumises. Je pense à un autre cas, ce sont les souffrances des proches, des personnes qui sont dans les EHPAD. Très souvent, quand ceux-ci, par malheur, décèdent, ils n'ont pas d'explication de ce qui a pu se passer. Et il y a beaucoup de plaintes actuellement pour non-assistance à personne en danger, notamment, voire même homicide involontaire. Donc là, vous avez un nouveau contentieux qui va induire la justice à enquêter et à dégager la vérité par rapport à ce qui s'est passé. Comme souvent après une crise d'une grande ampleur, il y a une transition entre la normalité et le retour à la normale. Et la justice est très souvent sollicitée pour assurer cette transition et réparer les blessures qui ont été provoquées par la crise. L'autre volet de la question, c'est qu'il y aura aussi des plaintes vis-à-vis des dirigeants politiques ou administratifs. Parce qu'il y a des tas de questions qu'on se pose sur la politique sanitaire, sur la politique des masques, sur les tests, etc. Donc on risque d'avoir, si vous voulez, après le moment sanitaire, un moment judiciaire assez lourd après le déconfinement.
Signe que la justice transitionnelle décrite par Denis Salas fait peur, les débats sur le prolongement de l'état d'urgence sanitaire se sont beaucoup focalisés sur un dispositif contesté, voté par les sénateurs, visant à limiter durant cette période la responsabilité pénale des décideurs, élus, fonctionnaires et employeurs. Dans cette sortie de confinement, les défis qui attendent la justice sont immenses. Ce qui pousse mes interlocuteurs à l'optimisme, c'est que l'ensemble des professionnels, affirme-t-il, est pleinement engagé pour les relever. Mais leurs moyens ont des limites. Ça fait des années qu'on crie au secours, qu'on dit qu'on frôle la rupture comme les hôpitaux, s'inquiète le greffier Hervé Bonglet. Alors au-delà des 1000 vacataires promis par la garde des Sceaux pour la reprise, c'est un vaste plan de sauvetage qu'il faut au système judiciaire, estiment ceux qui l'incarnent, faute de quoi le risque existe que la justice soit de moins en moins à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre en démocratie.
Les défis de la justice post-confinement, un grand reportage de Laura Martel, réalisation Pierre Chaffanjon.